Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Avec ce soir cette question, le président nigérien élu et qui prête serment vendredi prochain, va-t-il être à la hauteur du défi sécuritaire auquel son pays est confronté? Obtiendra-t-il un meilleur bilan que son prédécesseur et mentor, qui laisse derrière lui un bilan sécuritaire chaotique? Nous en débattrons juste après ce rendez-vous.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Tita Samba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Union des journalistes de Centrafrique. Le président réélu centrafricain Faustin Archange Touadéra a prêté serment ce mardi pour son second mandat. Quelles sont les urgences sur lesquelles l'attendent particulièrement ses concitoyens?
Écoutez, lorsque nous voyons d'abord un premier mandat du président Faustin Archange Touadéra, il n'a pas pu gérer toute l'étendue du territoire centrafricain comme cela devrait l'être. Les groupes armés écumaient une bonne partie du pays. Aujourd'hui, les choses se sont un peu calmées. Quand on a commencé les élections, déjà au mois de décembre, le pays était complètement bouleversé. Donc, ce que je pense de la prestation de serment du président Faustin Archange Touadéra pour ce second mandat, c'est que la priorité devrait être mise sur la sécurité. Il faudrait que le gouvernement qui verra le jour bientôt s'attelle pour restituer la sécurité.
Et aussi l'intégrité du territoire?
Oui, sur toute l'étendue du territoire. Parce que vous savez, nous avons plusieurs pays qui sont aux frontières de la République centrafricaine. Et les frontières sont poreuses. Il y a des bandits qui viennent de partout pour semer l'insécurité dans le pays. Donc le président Touadéra a d'abord, premièrement, le problème de la sécurité. Et suivra donc le développement du pays, parce que c'est un pays qui n'est pas ouvert au monde. Donc, essayer de faire en sorte qu'une diplomatie assez efficace pour permettre à ce pays de se redorer un peu le blason.
Est-ce que vous pensez qu'il a les moyens de ramener la sécurité?
C'est toute la difficulté que le gouvernement centrafricain a aujourd'hui. C'est une question de moyens. C'est pourquoi j'ai dit, il faudrait justement qu'une diplomatie soit une diplomatie agissante. Lorsque le président Touadéra est arrivé au pouvoir, il y a quelques années, 5 années déjà en arrière.
C'était en 2016.
Oui, il y a une armée qui n'existait que de nom. La pyramide de l'armée était renversée. Les officiers étaient supérieurs aux hommes de rang. Donc, ce que le président Touadéra a essayé de faire jusqu'à la fin de son premier mandat, c'est de procéder à des recrutements pour permettre aux jeunes de pouvoir sécuriser le pays. Et on a constaté que petit à petit, il a fait ses recrutements grâce à l'aide internationale. Nous citerons par hasard la France elle-même, même
la Russie aussi. Et les autres. Et le Rwanda.
Oui, la Russie et le Rwanda et les autres pays. Donc, on a réussi justement à faire ce recrutement pour permettre au gouvernement d'asseoir son autorité. Mais ce n'est pas encore fini, dans la mesure où nous savons que dans les abords de nos frontières, il y a encore des gens qui sont là avec leurs armes.
Donc pour vous, l'une des priorités sera aussi le renforcement du recrutement de jeunes pour les FACA, mais aussi peut-être aussi la restructuration des forces armées centrafricaines?
C'est cela. C'est cela. Le pays s'étend à plus de 653 000 km². Et pour couvrir d'une manière assez sécuritaire, il faudrait qu'il y ait une réforme dans le secteur de sécurité. Il y a la gendarmerie qu'il faut augmenter en nombre, il y a la police qu'il faut augmenter en nombre, il y a les forces armées centrafricaines qu'il faut augmenter en nombre pour pouvoir sécuriser les frontières.
Mais il y a aussi la question de l'embargo sur les armes.
Si la communauté internationale pouvait se remettre en question sur cette question de l'embargo, je pense que on pourrait aider la République centrafricaine. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut encore renégocier pour permettre à ce gouvernement-là d'avoir les mains libres, d'avoir la coudée franche pour pouvoir gérer ce pays qui n'a trop que souffert.
Le président Touadéra a annoncé récemment la tenue prochaine d'un dialogue républicain inclusif. Pensez-vous qu'il parviendra à réunir à la fois entités politiques et groupes armés autour de cette concertation, alors même que l'opposition dit ne pas reconnaître sa victoire et la rébellion CPC menace toujours de le déloger du pouvoir?
Vous savez que c'est seulement en République centrafricaine qu'on demande à ce que le pouvoir discute avec les rebelles. Dès l'instant où la personne a décidé de rentrer dans la brousse et de chercher à tout prix à renverser le pouvoir en place, renverser le pouvoir démocratique, je ne peux pas admettre que la communauté internationale force la main d'un président élu de discuter avec ceux-là. Il y a une opposition démocratique qui existe et cette opposition joue son rôle.
Des opposants ont été empêchés de quitter le territoire car ils feraient l'objet d'enquêtes. Quel est votre avis sur cette mesure des autorités?
Bozizé, en son temps, avait fait la même chose. Aujourd'hui, Touadéra le fait. On ne peut pas attendre que les élections finissent, qu'on installe le président, que les choses soient un peu plus calmes pour sortir. Ce n'est qu'en ce moment que les gens trouvent le plaisir de dire qu'ils sont malades, qu'ils veulent aller se faire soigner. Moi, je pense que ça, c'est un peu de la démagogie.
Tita Samba, merci beaucoup.
Je vous remercie.
Président de l'Union des journalistes de Centrafrique à Bangui.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bienvenue et nous ouvrons notre débat à présent sur le Niger. Le président élu Mohamed Bazoum, qui sera investi vendredi prochain, fera-t-il mieux que son prédécesseur et mentor, le président Issoufou? Nous en débattons avec quatre invités. Dr Abdourahmane Diko, enseignant-chercheur spécialiste des questions sécuritaires et politiques à l'université de Zender au Niger. Dr Diko, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Nous avons également le plaisir d'accueillir Daouda Takou Bakoy, directeur de campagne adjoint du président élu Mohamed Bazoum. Monsieur Takou Bakoy, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes à Niamey. Et également Michael Zedi, coordonnateur national de Tournant la Page. Monsieur Zedi, bonsoir. Allô, monsieur Zedi, vous m'entendez?
Madame.
Bonsoir, bienvenue. Et avec nous ici à Paris, Aboubakar Lalo, qui est analyste politique et des questions de défense et de sécurité. Monsieur Lalo, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir à tous.
Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté de participer à ce débat. Je vais commencer par le monsieur Daouda Takou Bakoy, qui est directeur de campagne du président élu, qui était alors, bien sûr, candidat Bazoum. Quand les adversaires, vos adversaires affirment que le président Issoufou laisse derrière lui un bilan sécuritaire calamiteux, qu'est-ce que vous en dites?
Bonsoir madame, j'aimerais d'abord ce qui est le Niger dans le domaine sécuritaire. Je crois que les gens doivent relativiser un peu et que le seul indice qui existe au niveau mondial, c'est la GPI, le Global Peace Index. Cet indice classe le Niger 126e dans le monde, donc nettement devant l'Afrique du Sud, les USA, l'Arabie Saoudite en 2019. Et le Niger est largement devant plusieurs pays comme le Tchad, le Mali et le Nigeria qui ont le même contexte sécuritaire. Donc je crois que ce que le président Issoufou a fait en 10 ans pour maintenir la sécurité au Niger est exceptionnel et ça doit être reconnu et félicité. Je crois que si c'était d'autres hommes qui étaient à sa place, on ne serait pas ici en train de discuter au téléphone sur des questions de sécurité.
Et on serait en train de faire quoi alors?
Bon, je crois que le Niger serait, comme l'avaient prévu beaucoup d'experts, serait
sous contrôle de groupes armés totalement.
Sous contrôle d'autres groupes armés, comme d'autres pays où ils n'avaient pas eu la chance d'avoir des hommes comme Issoufou à la tête de leur pays.
Merci. Docteur Diko, vous partagez cette réflexion, ou bien plutôt cet avis de M. Takou Bakoy, la situation serait pire si le président Issoufou n'avait pas pris de mesures pour venir à bout de ces attaques? Oui, monsieur Diko, vous m'entendez?
Oui, je n'ai pas très bien suivi la position de Tako Bako.
Bah, il affirmait que la situation est meilleure et que le président Issoufou a fait tous les efforts, a pris toutes les mesures nécessaires pour que le bilan sécuritaire soit le sien aujourd'hui. Lui, il estime qu'il y a des avancées notables. Manifestement, on n'a pas la possibilité d'écouter M. Diko. Allô, Monsieur Diko?
Oui, je vous reçois, madame.
Allez-y, s'il vous plaît.
Donc, je disais tantôt que il est de manière immuable, de manière irréversible, que le président Issoufou a fourni un effort considérable dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme de manière globale, et que sa politique sécuritaire véritablement a fonctionné dans la mesure où elle a plus ou moins, j'allais dire, fragilisé un peu les groupes extrémistes qui rôdent sur les frontières nigères. Mais tout de même, je pense très bien que la question n'est pas à ce niveau, ce n'est pas à chercher à savoir si réellement ce bilan sécuritaire est de Issoufou ou de quelqu'un d'autre. Il y a des situations, j'allais dire, de vulnérabilité, j'allais dire, graves, qui accentuent la question de sécuritaire et à partir desquelles on est obligé aujourd'hui de réfléchir pour voir véritablement est-ce que le terrorisme ne se nourrit pas de ces situations de pauvreté et des situations aussi de crise alimentaire qui sévissent pratiquement dans toute la région du Niger. Voilà la question fondamentale à laquelle il faudrait répondre. Et je suis d'accord aujourd'hui que nous sommes dans un pays où tout est prioritaire, que le président de la République, Mahamadou Issoufou, a sensiblement, j'allais dire, géré cette crise sécuritaire avec beaucoup plus de
réussite.
De réussite. Donc il faut lui attribuer, il faut lui reconnaître aussi cet effort et reconnaître aussi qu'il a véritablement joué un rôle essentiel, d'abord sur le plan régional, mais aussi sur le plan international, dans la mobilisation des ressources financières, dans la mobilisation, dans le renforcement du partenariat entre le Niger ou du moins l'Afrique et les autres États occidentaux.
Merci docteur Diko. On va revenir à vous. On fait d'abord un tour de table. Monsieur Zodi, vous partagez cet autre avis du docteur Diko qui va dans le sens de M. Tako Mbakoy, même s'il disait qu'on ne sait pas à qui on devrait attribuer ce bilan, mais avant, peut-être dans un an ou deux, évaluer celui du président Bazoum, il faut bien partir d'une situation de laquelle il hérite. Allô, M. Zodi?
Pas du tout, madame. Oui. Allô, oui.
Allez-y, s'il vous plaît.
Allô?
Oui, M. Zodi, allez-y.
Allô?
On vous écoute, M. Zodi. Oui?
Donc, sincèrement, je suis des discours de nos compatriotes par rapport à cette question d'un. Vous le savez, le bilan est effectivement négatif. Vous prenez du début de l'année à aujourd'hui, nous perdons nos citoyens. Donc, minimum 100 personnes par mois. 100 personnes, 100 de nos citoyens qui sous les balles de ces terroristes-là. Effectivement, si vous comprenez, la gestion même de la sécurité au niveau du Niger, de l'insécurité au niveau du Niger, pose problème parce qu'il y a le détournement des deniers destinés pour endiguer ce problème-là. Le fonds loué à l'armée, effectivement, n'arrivait pas à l'armée. Il y a même des opérateurs peureux qui ont donné des matériels défectueux, des munitions qui ne détournent pas. Et aujourd'hui, on va me faire comprendre que le bilan de Issoufou par rapport à la sécurité est positif. Aujourd'hui, on n'a pas besoin, effectivement, de la présence des forces étrangères sur notre territoire. Issoufou a fait amener ces forces étrangères. Et ces forces d'occupation n'arrivent même pas à endiguer ce problème de terrorisme. Quel bilan? On veut juger quel bilan? Bon, là où nos concitoyens tombaient comme des mouches? Non, s'il vous plaît, la question est claire, la réalité est là. Il ne faut pas se tabler sur des chiffres destinés à la consultation internationale pour pouvoir juger cette question-là. Nous autres citoyens qui sommes sur le terrain, nous savons qu'effectivement, cette question de sécurité est d'autant plus préoccupante que d'autres choses. Aujourd'hui, le paysan qui est dans son... Aujourd'hui, il y a des villages qui ont été incendiés. Les greniers, on stocke les vivres pour ces populations-là. Merci. Ont été incendiés. Parlez de quel bilan? Merci. Je vous assure que ce bilan est catastrophique et je pense bien que l'impunité a contribué à ce que ce bilan soit catastrophique. Notre armée est démoralisée. Je dis bien, notre armée est démoralisée parce qu'effectivement, ils n'ont pas les moyens pour faire leur mission régalienne.
Merci beaucoup, M. Zodi. Rassurez-vous, on va revenir à vous tous les quatre tout à l'heure, mais on écoute d'abord Aboubacar Lalo sur son analyse. M. Lalo, l'état des lieux, le diagnostic ou plutôt la situation sécuritaire n'est pas apprécié de la même façon.
Oui, mais ça dépend de quel point justement on essaie de voir cette situation. Effectivement, moi, ce que j'aurais aimé de ce débat, c'est qu'il soit dépassionné. Du moment où la sécurité est quand même un enjeu fondamental, quelle que soit l'origine, quelle que soit l'origine. Donc, nous devons, nous, en tant que Nigériens, essayer de dépassionner et surtout, ce que nous devons faire, c'est donner des idées, des pistes. Voilà, nous le faisons pendant des années, effectivement. Donc, on essaie de faire avancer les choses. Donc, ce n'est pas en faisant de l'alali sur tel ou tel bilan que la vérité rejaillira. Oui, le président Issoufou a consacré plus de 17% de son budget, justement en sacrifiant d'autres pans. Sociaux, justement pour essayer de maintenir une armée. Nous savons tous maintenant que le terrorisme est mondialisé. Vous l'avez partout. Hier, on parlait de Palma, au Mozambique. Vous voyez, un pays qui n'est pas musulman et qui subit justement donc les affres de ce djihadisme.
Mais la question situe aujourd'hui au niveau de la gestion qui a été celle du pouvoir sortant de cette situation sécuritaire, même si on peut effectivement concéder que aujourd'hui cela va au-delà de Niger, c'est le Sahel, toutes les régions ne sont pas épargnées.
Absolument, absolument, oui, mais toutes les régions ne sont pas épargnées, on le voit en Côte d'Ivoire aussi, au Burkina, oui, mais donc...
Mais moi, la réponse où le président Issoufou a-t-elle permis aujourd'hui de laisser à son successeur un bilan, disons, moins catastrophique ou positif?
Moi, je dirais que la situation est moins catastrophique de ce que l'on nous prédisait. Même nous en analysant très souvent depuis 2015, au moment où le Niger est entré en guerre contre Boko Haram, par exemple, on se disait que la situation allait être intenable pour le Niger et que des groupes, des Katibas vont s'installer même au Niger. Et la situation est vraiment à l'inverse pour le moment. Donc on voit qu'il n'y a aucune force djihadiste installée au Niger, qui opère au Niger. Donc toutes les attaques qu'il y a, ce sont des attaques exogènes. C'est-à-dire ce sont des attaques qui viennent de l'étranger, que ce soit Boko Haram, donc du Nigeria, et que ce soit donc ACMI maintenant qui est le JNIM, et dans l'État islamique, le Daesh, donc à partir du Mali. Donc moi je peux dire qu'au moins nous avons cet acquis-là.
Merci beaucoup, et que l'essentiel a été sauvé.
Va essayer de fructifier.
On revient dans quelques instants.
Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Le président élu nigérien fera-t-il mieux en matière de sécurité que son prédécesseur? Nous en débattons dans votre émission ce soir avec Michael Zodi, coordonnateur national de Tournant la Page Niger à Niamey, Aboubacar Lalo, analyste politique ici à Paris, Daouda Takoumbakoy, directeur de campagne adjoint du président élu Mohamed Bazoum à Niamey et également au Niger, mais cette fois à Zender. Docteur Abdourahmane Diko, enseignant-chercheur spécialiste des questions sécuritaires et politiques à l'Université de Zender. Messieurs, vous n'avez pas pu vous mettre d'accord sur le bilan sécuritaire ou la situation sécuritaire dans votre pays aujourd'hui. Mais j'aimerais que, dans cette partie, nous parlions de qu'est-ce que le nouveau président ou le président élu peut faire pour améliorer la situation. Je commence par vous, monsieur le docteur Abdourahmane Diko.
Oui, madame. En fait, ce qu'il faudrait d'abord y relever, c'est que le président Bazoum aura des défis beaucoup plus immenses que ceux auxquels le président Issoufou avait fait face pendant ses 10 ans de mandat. Donc, je voudrais un peu évoquer la question de la responsabilité politique et de la fragilité de l'État. Allô ?
Oui, on vous écoute.
Dans un premier temps, le président Bazoum aura la lourde responsabilité de travailler pour pouvoir consolider d'abord les acquis politiques. Puisqu'il faudrait le reconnaître d'abord, dans un premier temps, que l'État du Niger, de manière globale, est, j'allais dire, soumis à un processus de fragilisation de ses institutions. Et c'est là où l'État beaucoup plus informel. Donc il faudrait maintenant travailler pour que l'État retrouve véritablement, j'allais dire, tout son caractère, j'allais dire, régalien.
Est-ce que vous pourriez être plus précis, monsieur Dr Diko, quand vous parlez de fragilisation de son, de ses institutions, de quoi s'agit-il de manière concrète, parce qu'il y a un lien, dites-vous, avec la réussite de M. Bazoum dans la lutte contre l'insécurité. Quand vous parlez de fragilisation des institutions, de quoi voulez-vous parler ?
Lorsque j'évoque la question de la fragilité des institutions républicaines, c'est le fait que les institutions de la République soient, j'allais dire, soumises à un contrôle beaucoup plus accentué, n'est-ce pas, des acteurs politiques qui sont véritablement versés dans la conquête des rentes politiques. Donc, il faudrait qu'ils mettent en avant d'abord le mérite, il faudrait qu'ils capitalisent les compétences nationales, il faudrait qu'ils travaillent pour restaurer la justice sociale, il faudrait qu'ils travaillent pour restaurer l'autorité de l'État. Et dans ces conditions, l'État peut exercer, j'allais dire, toutes ses prérogatives de manière à ce que les institutions qui sont chargées de gérer, par exemple, la question sécuritaire soient beaucoup plus, j'allais dire, efficaces. Hier, j'ai écouté le président Bazoum dans une interview. Il a lui-même reconnu le fait qu'il y a eu, à un certain moment, au niveau du ministère de la Défense, dont Michael Zoudi vient d'évoquer, et ce qu'il faudrait faire, et que le président Bazoum l'a très bien dit, qu'il faudrait, ils vont travailler pour que cela ne se répète plus.
Vous parlez du détournement des fonds destinés à l'achat d'équipements au ministère de la Défense, dont la société civile a longtemps réclamé en vain la vérité sur ce dossier.
Je parle de manière globale, c'est-à-dire de la corruption qui est en train de rendre les institutions beaucoup plus inefficaces. Donc, c'est en fait l'autorité de l'État dont je parle, la restauration de l'autorité de l'État. Dans un autre plan aussi, lorsqu'on voit les défis majeurs auxquels le président Bazoum sera beaucoup plus confronté et qui sont de loin beaucoup plus compliqués que ceux auxquels Issoufou était confronté, c'est d'abord le fait qu'on assiste de manière impuissante, j'allais dire, à une sorte de cristallisation du terrorisme dans le Sahel. Le Sahel est en train de devenir un sanctuaire et on assiste à une sorte de transfert de l'État islamique dans l'espace sahélien. Et nous connaissons très bien la vulnérabilité de nos États, un État comme le Niger, qui est un État pauvre et qui relativement a besoin d'un soutien extérieur.
Lorsque,
par exemple, Michael Zoudi parle de refus du Niger de pouvoir de coopérer avec les bases militaires étrangères, je pense très bien qu'il y a un problème essentiel qui est là, que le Niger, depuis 1960, est engagé dans ce qu'on appelle les accords, n'est-ce pas,
de défense
avec des États extérieurs.
La France,
donc,
notamment.
Il est fondamental de comprendre que le terrorisme n'est pas une affaire d'un État. Il est fondamental de comprendre que la lutte contre le terrorisme n'est pas véritablement, ne relève pas, si vous voulez, de la puissance ou de l'autorité ou de l'indépendance d'un État, mais plutôt, il le relève de l'engagement d'un État à pouvoir, j'allais dire, s'impliquer dans un processus, dans une dynamique globale où les compétences extérieures seront plus ou moins favorisées.
Merci. Docteur Diko, je suis désolé, ça fait près de plus de 4 minutes que vous parlez, il y a les autres qui doivent intervenir. Je propose qu'on écoute Michael Zoudi. Après, rassurez-vous, M. Takumba Koy, vous allez nous dire quelle est la politique, quelle est la stratégie sécuritaire du président Bazoum. M. Zoudi, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez comme acte fort, changement significatif? Espérez-vous dans la stratégie sécuritaire du président Bazoum?
D'abord, comme dit Dr Diko, il ne faudrait pas que le président élu soit dans la continuité. Vous m'entendez?
On vous entend.
Allô?
On vous entend, M. Zoudi.
Vous m'entendez?
Parfaitement, allez-y.
Oui, j'ai dit, il ne faudrait pas que le président élu s'élance dans la continuité de ce que Issoufou a fait. Il a trois choses à gérer d'abord. Premièrement, il faudrait créer la condition d'une unité nationale autour de la question d'insécurité. Vous savez, durant la gestion, les 10 ans de gestion de Issoufou, il a réussi à diviser tous les Nigériens. Un peu partout, effectivement, même dans les foyers, les gens ne s'entendaient pas. Deuxième chose, il faudrait que nécessairement qu'il y ait lumière par rapport à l'audit du ministère de la Défense. Il faudrait que les fonds alloués à la sécurité au ministère de la Défense puissent arriver aux soldats. Il ne faudrait plus qu'effectivement qu'il y ait ce genre de comportement qui ne vise rien d'autre qu'à créer les conditions pour que le chaos soit au Niger. Troisième chose, il faudrait que nous sommes d'accord, nous sommes dans un monde planétaire, nous avons besoin des autres pays. Mais il faut revisiter la coopération militaire. Nous n'avons pas besoin à ce que les gens puissent venir s'installer sur notre territoire. Nous avons besoin effectivement sur le plan de la formation de nos soldats, ils puissent, sur le plan des moyens matériels, ils doivent effectivement nous aider par rapport à ces questions. Mais nous n'avons pas besoin à ce qu'ils viennent s'installer sur notre territoire. Aujourd'hui, le problème qui se pose, vous avez constaté que ces soldats-là étrangers qui arrivent sur notre territoire ne maîtrisent même pas la géographie du Niger, ne maîtrisent même pas la géographie des zones concernées, ne maîtrisent pas les réalités socio-culturelles de nos populations. Donc nos militaires, nos propres militaires, à qui la loi donne, c'est leur mission régalienne de faire cette mission-là, on doit les doter des moyens conséquent. Donc ce n'est pas, je ne nie pas qu'on n'a pas besoin d'aide, mais l'aide doit être autrement, pas de cette façon-là où les gens viennent s'installer avec armes et balades. Aujourd'hui, je vous informe ce qui se passe dans le département de Tera, où la zone Tampo, la zone de trois frontières, où dans des villages, les militaires tchadiens sont en train de violer, j'ai dit, nos serres dans ces zones.
Donc, nous n'avons pas besoin, ils sont à peine arrivés, les militaires tchadiens, monsieur Zodi.
Ils ont le soutien, effectivement, matériel, logistique.
Je disais, les militaires tchadiens viennent à peine d'arriver.
Ici au Niger, effectivement. Oui, ils viennent à peine d'arriver, mais voilà des actes ignobles qui sont en train de poser dans nos contrées. Ça, là, nous ne pouvons pas continuer à croiser les mains. Beaucoup de choses ont été cachées aux populations. Même les accords de défense là, dont vous parlez, normalement, pour les ratifier, effectivement, il faut que ça soit discuté au niveau de l'Assemblée nationale. Rien n'a été discuté, rien n'est sorti. Aujourd'hui, nous n'avons aucune information par rapport à ces accords de défense. Donc, c'est pour vous dire que c'est le silence total autour de... d'insécurité. Et merci. C'est ce qui fait en sorte que l'opinion, aujourd'hui, nos populations n'arrivent pas à coopérer très bien avec les soldats étrangers. Même avec nos militaires, vous savez qu'aujourd'hui, clair d'éthique, les villageois arrivent à donner les informations à terre. Mais l'armée n'est pas sur place. Et on vient, on les tire. Aujourd'hui, ils sont en train de s'organiser en milice d'autodéfense.
Merci, monsieur Zodi. Merci, monsieur Zodi. S'il vous plaît, permettez aussi aux autres, il y a beaucoup de choses à dire, donc je comprends, mais il faut que la parole soit distribuée de manière équitable. Monsieur Daouda Takumba Koy, vous m'entendez?
Oui, je vous entends parfaitement, madame.
Voilà, sur les attentes exprimées tout à l'heure de Dr Diko et par Mike Ozodi sur les attentes concernant la nouvelle stratégie sécuritaire du président Bazoum, qu'est-ce que vous leur répondez et partagez peut-être aussi avec nous ce qu'il entend faire, mettre en place pour obtenir de meilleurs résultats?
Merci, madame. J'aimerais d'abord recadrer un peu Michael Ozodi, à qui je demande humblement vraiment de traiter cette question avec... de manière rationnelle, au lieu de s'agiter comme il le fait, parce que c'est une question essentielle pour la vie de notre pays. Il est là en train d'accuser des forces venues en aide au Niger d'actes que lui seul a les preuves. Je veux vous dire que, de manière officielle, et après vérification dans toutes les villes où des exactions ont été véhiculées sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune preuve d'un militaire d'un pays venu nous aider ayant fait des exactions telles qu'il est en train de le dire.
Et je crois donc vous admettez qu'il y a eu des soupçons, il y a eu des accusations, mais ces soupçons ne sont pas avérés.
Madame, je ne sais pas si vous connaissez l'état des réseaux sociaux dans notre pays, en Afrique, principalement au Niger. Toutes sortes de rumeurs véhiculent autour de toutes sortes, de tout autre sujet. Donc, je crois que Michael Ozodi ne tient pas compte de ces choses pour avancer ce qu'il a avancé. Et j'espère surtout qu'il s'assumera lorsque des comptes lui seront demandés, parce que c'est extrêmement grave les accusations dont il...
dont il parle, d'accord. Revenons sur certains points relevés, voilà. L'audit du ministère des Défenses.
Et d'autres choses, il dit que les accords ne sont pas...
rendus publics.
Les accords, c'est des accords, de sécurité, donc des accords militaires de sécurité. Comment pouvez-vous imaginer, comment pouvez-vous penser un seul instant qu'on publie, qu'on divulgue sur les réseaux sociaux des accords militaires? Ça n'a aucun sens. C'est purement du confidentiel et du rôle du confidentiel protégé par les lois de la République.
Et maintenant, s'il vous plaît, sur la fragilisation des institutions dont s'inquiétait le docteur Dicko, il souhaite qu'il y ait un travail à ce niveau-là, et puis aussi l'audit du ministère de la Défense pour que les moyens attribués à la lutte contre le terrorisme aillent vraiment aux militaires au front.
Vous savez, madame, l'audit du ministère de la Défense, je crois que si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un audit. Il n'y a aucun pays, y compris en France, où on fait l'audit du ministère de la Défense. Il n'y en a pas. Donc, le président Mohamedou Issoufou a pris un courage dont il faut le féliciter pour lancer un audit qui a sorti des résultats et qui sont en train d'être traités. Donc, si Michael Gade aujourd'hui parle de l'audit, c'est qu'il y a eu un audit. Il y a eu 8 présidents avant le président Issoufou. On n'a jamais entendu parler d'audit du ministère de la Défense.
D'accord, donc, il y a eu audit, mais sans suite judiciaire, comme le souhaite la société civile. Est-ce qu'avec le président Bazoum, cela va être relancé, par exemple?
Je dis Bazoum s'inscrit dans la continuité des actions de Issoufou, à qui nous croyons fermement qu'il a fait de son mieux, et que cet audit, les chiffres que Michael Zodi véhicule sur les réseaux sociaux, ne sont pas les vrais chiffres, madame. J'aurais voulu que vous demandiez une copie de cet audit et qu'on vous le procure avant de discuter, parce que là, ils vont sortir des chiffres totalement absurdes qui n'ont rien à voir avec la vérité. Maintenant, le programme du président de la République élu, Mohamed Bazoum, déjà, je voudrais vous dire que le Niger a une chance extraordinaire, et je peux dire aussi que les pays du Sahel ont une grande chance d'avoir un homme comme Mohamed Bazoum à la tête du pays, parce que je peux, sans risque de me tromper, dire que c'est l'un des hommes de l'Afrique de l'Ouest, ou bien du Sahel, qui est le mieux au courant des enjeux de sécurité.
En tant qu'ancien ministre de l'Intérieur.
En tant qu'ancien ministre, et même en tant que capacité humaine, personnelle. Sa capacité personnelle à comprendre les choses et à trouver des solutions. Ça, je crois que vous avez pu ou entendre des interviews sur ce sujet. Je crois que c'est l'homme de la situation actuellement. En plus de cela, Mohamed Bazoum va mettre en place le programme avec lequel il s'est présenté devant les Nigériens, et dont il a reçu 55,6% des voix. Ce programme fait une part.
Allô? Allô? Nous avons perdu Daouda Takumba Koy, directeur de campagne du candidat Mohamed Bazoum, devenu président élu. Et nous allons le retrouver dans un instant, de même que notre trois autres invités. Rassurez-vous, Aboubakar Lalo, vous aurez la parole tout à l'heure sur cette question. Mohamed Bazoum sera-t-il à la hauteur du défi sécuritaire? À tout de suite.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Le président élu nigérien Mohamed Bazoum fera-t-il mieux que son prédécesseur quant à la situation sécuritaire dans son pays? Nous en débattons ce soir avec Daouda Takumba Koy, directeur de campagne adjoint de Mohamed Bazoum, Aboubakar Lalo, analyste politique, Michael Zodi, coordonnateur de Tournant la page Niger, et Dr Abdourahmane Dicko, enseignant-chercheur spécialiste des questions sécuritaires à Zender. Et nous allons vous donner encore vraiment une minute, monsieur Takumba Koy, le temps de terminer vos propos. Ensuite, on écoutera Aboubakar Lalo. Vous disiez que Mohamed Bazoum est l'homme de la situation et que c'est une chance pour le Niger et même le Sahel de l'avoir à la tête du pays, et qu'il fera l'affaire quant à la situation sécuritaire.
Effectivement. Et madame, je vous dis que le programme qu'il a présenté aux Nigériens, dans ce programme, il y a un volet dédié à la sécurité globale. Et je peux vous dire que cette partie du programme, il l'a écrit de ses propres mains. pour vous dire à quel point il tient à faire. Ce programme contient déjà la lutte contre la pauvreté, l'emploi de, notamment l'emploi des jeunes, et l'intensification de l'éducation.
Excusez-moi, on parle uniquement vraiment de sécurité. On n'a pas le temps d'aborder les autres. Donc vous assurez que qu'est-ce qu'il va faire vraiment de manière succincte ? Qu'est-ce qu'il compte faire différemment que son prédécesseur pour qu'il n'y ait plus autant de morts, 200 morts en une semaine au Niger ?
Vous savez, madame, la sécurité se traite de manière globale. On ne peut pas traiter un pan et laisser l'autre. Ça crée toujours d'autres problèmes. Et que la mise en œuvre des stratégies dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain. Mais parmi les choses qu'il va intensifier sera déjà la mobilisation des ressources humaines en qualité et en quantité.
Merci.
L'équipement matériel, donc les ressources matérielles qu'il va mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité, et surtout aussi garder la coopération internationale.
Merci
pour nous donner plus de moyens et de visibilité sur le terrain.
Merci, M. Takumba Koy. Alors, Aboubakar Lalo, optimiste que, comme le dit M. Takumba Koy, vous aussi, est-ce qu'il est l'homme de la situation ?
Oui, je peux dire que Bazoum Mohamed a des prédispositions justement qui l'ont mené justement sur ce terrain-là, sur le terrain de la sécurité, la défense de la sécurité. Mon prédécesseur avait dit qu'il avait été ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Justement, il a eu à gérer des dossiers très chauds du terrorisme. On l'a entendu quand il négociait avec des terroristes parce que, justement, il voulait solutionner ce problème-là. Il avait dit dans son interview hier. Mais au-delà de ça, il faut aussi dire qu'à son actif, il y a le programme de déradicalisation avec le centre de Boudoumaria. Vous savez, il y avait des combattants de Boko Haram. À un certain moment, il a été mis sur pied, donc avec le président Bazoum, les autorités régionales, etc. Et surtout, donc, le président Bazoum. Donc, un centre de déradicalisation. C'est-à-dire, tous ces combattants-là, ils déposent les armes, ils reviennent dans la mère patrie. Et c'est ce qui a été fait, justement, donc, à Boudoumaria, qui est une grande première.
Donc, selon vous, il devrait intensifier cette politique de déradicalisation pour réussir ?
Oui, je pense que c'est ça le nœud du problème, c'est la déradicalisation. Et avec ça, lorsque l'on voit donc, le phénomène de radicalisation, d'engagement, moi je préfère mieux le terme engagement que radicalisation, lorsqu'on voit que tous justement, ces groupes-là, qui sont pilotés par des étrangers, Abou Zeid, Brokdel, Abou Al-Sahraoui, ce sont des étrangers, et c'est eux qui détiennent justement tous ces groupes djihadistes donc, qui nous attaquent. Je pense que cette méthode-là de déradicalisation-là, il faut qu'elle soit encore plus opérationnelle dans la région aussi de Kélabéry, c'est-à-dire la région des trois frontières, à Aktawa. Et je pense que là, on ramènera justement donc toutes ces brebis égarées. Hein, ce sont très souvent des nationaux qui sont là, donc qui ont été engagés donc dans cette aventure-là par justement donc leurs parrains qui sont étrangers, comme je l'ai dit, Al-Sahraoui, etc. Et à la question de savoir justement qu'est-ce qui doit être fait ? Je pense que il faut qu'il y ait un réajustement. Et c'est pas moi qui avait prononcé ce mot-là. C'est le président Macron qui l'avait dit il n'y a pas si longtemps. Et le président Bazoum aussi avait utilisé le même mot, c'est-à-dire la même terminologie pour dire avec nos partenaires donc impliqués dans la lutte antiterroriste, il faut qu'il y ait des réajustements. Il faut qu'il y ait souvent des clarifications.
Réajustements sur quel point ? Le renseignement, le renforcement des équipes ?
Justement, du moment où moi, de mes analyses, très souvent j'ai dit que seules nos armées nationales peuvent arriver à combattre justement donc ces forces de la terreur. Et justement en renforçant donc les capacités opérationnelles, en technologie de renseignement, je pense que c'est ça qui manque le plus.
Merci.
Vous pouvez pas faire une armée sans ces outils-là, sans cette technologie-là.
Merci
toutes
beaucoup.
Les armées modernes le font. Et puis autre chose, juste un mot, il faut qu'on repense aussi le modèle de notre armée. Nous avons une armée classique avec une guerre qui est non classique. Donc une guerre qui est asymétrique, qu'on appelle asymétrique. Donc là-dessus, dans son organisation, dans son modus operandi, je pense que notre armée doit être repensée, doit être réorganisée pour qu'elle soit plutôt aller vers la lutte anti-révolutionnaire, ce qu'on appelle la contre-insurrection.
Merci.
Donc, pour aller combattre justement donc, ces forces de la terreur et puis renforcer l'armée, l'objectif des 50 000 hommes, je pense qu'il faut qu'on atteigne ça durant donc, les 5 ans.
Les prochaines années immédiatement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, d'autant plus, M. Zodi, qu'il n'y a pas d'état de grâce pour M. Bazoum. La situation est urgente au regard du diagnostic des réalités sur le terrain. Bon, on n'attend pas M. Zodi. M. Abdourahmane Diko, est-ce qu'il y a des urgences, est-ce qu'il y a des aspects qu'il faut ajouter aux propositions faites par M. Lalo?
Oui, je suis entièrement, je partage certains de ses avis. Le processus de la déradicalisation qui, à mon humble avis, n'est pas véritablement un phénomène assez nouveau et n'est pas un phénomène aussi assez efficace. C'est que la question à laquelle aujourd'hui le président Bazoum doit se poser, doit trouver une réponse, c'est comment désanctuariser aujourd'hui une grande partie de notre territoire qui constitue aujourd'hui une poche ou qui fournit, qui est pratiquement un réservoir des djihadistes. Et il a très bien reconnu lui-même dans une interview que il y a une sorte de sous-traitance entre la population civile et les djihadistes. Et les djihadistes aujourd'hui sont devenus pratiquement une communauté qui est acceptée par la population locale. Donc c'est pourquoi moi je parle souvent du fait
qui cohabite avec
la population. Oui, que la population civile est à la fois cible et coupable. Donc, il est cible et coupable parce que les attaques maintenant sont réorientées vers la population civile. Et maintenant, elle est coupable parce qu'elle-même donne aux djihadistes les ressources nécessaires qui leur permettent de maintenir ce climat de violence perpétuelle dans pratiquement sur toute l'étendue du territoire national.
Mais est-ce que, docteur Diko, vraiment en deux phrases, vous êtes optimiste, vous dites que M. Bazoum a les ressources, les moyens de faire mieux et puis d'apporter rapidement des améliorations sur la
absolument
situation sécuritaire.
Je suis convaincu que le président Bazoum fera mieux que le président Issoufou parce qu'ils n'ont pas la même personnalité. Et tout à l'heure, quand on parle de compétences personnelles, ce qu'il faudrait révéler ici, c'est que le président Bazoum, on n'a pas besoin d'un homme fort, mais plutôt on a besoin d'un système fort. Et bien sûr, Bazoum est capable aujourd'hui de réunir les moyens nécessaires pour que l'État soit fort, pour qu'on ait un système efficace de lutte contre, n'est-ce pas, le terrorisme et de lutte contre la pauvreté. Je suis
merci
convaincu que Bazoum fera en sorte que le Niger, ou du moins l'État du Niger, soit réellement un État formel et non un État informel où il y a des positionnements qui se créent tous les jours et qui empêchent à l'État véritablement de fonctionner et d'être
merci
efficace
beaucoup
dans l'accomplissement de ses missions.
Merci beaucoup, Dr Abdourahmane Diko, enseignant-chercheur spécialiste des questions sécuritaires à l'Université de Zender. Merci à Daouda Takoumbakoy, directeur de campagne adjoint de Mohamed Bazoum, à Aboubakar Lalo, analyste politique des questions de défense ici à Paris, et Michael Zodi, coordonnateur national de Tournons la page Niger. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée.